Géopolitique.
Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, c'est vers Hong Kong que se tourne notre regard. Je suis accompagnée de deux invités, Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'IFRAE, l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est, en mission à Hong Kong. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et au CERI, au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Hong Kong, où devait se tenir ce dimanche les élections pour désigner le ou la chef de l'exécutif. C'est Carrie Lam qui occupe ce poste depuis 2017. Élections reportées au 8 mai à cause de la pandémie de Covid-19 et en particulier du variant Omicron qui frappe de plein fouet la région. Carrie Lam a fait le choix de la politique zéro Covid pour endiguer cette crise, une politique conforme aux exigences de Pékin, très contestée car vue comme très rigide. Les familles en sont à 11 mois d'école à la maison, l'opération de dépistage universel a été obligatoire, des centres d'isolement public dans lesquels on pouvait être envoyé de force et séparé de ses enfants. Jean-Pierre Cabestan, est-ce que c'était une mauvaise stratégie ?
C'est une stratégie qui ne pouvait plus être maintenue avec la vague Omicron, parce que ça allait quand on avait très peu de cas. Pendant longtemps, Hong Kong avait très peu de cas de Covid. Et puis il y a cette vague qui est arrivée au moment du Nouvel An chinois, c'est-à-dire autour du début février 2022. Et là, tout de suite, le nombre de cas a explosé. On a eu tout d'un coup, alors qu'on était dans les 10 000 cas, 280 000 cas. Et puis, un grand nombre de décès, de personnes âgées qui n'étaient pas vaccinées, puisqu'on a maintenant 6 000 décès, plus de 6 500 exactement. Alors qu'avant la vague Omicron, il n'y en avait que 200. Donc, vous imaginez le choc pour la communauté et puis aussi... l'inadaptation de cette politique de zéro Covid, parce que le Covid est partout, et que après avoir essayé d'envoyer tous les cas de Covid dans des centres comme celui de Penis Bay dont vous avez parlé, c'est devenu impossible. Donc on a dit aux gens qui avaient des symptômes relativement légers de rester chez eux. Donc en fait cette politique de zéro Covid, même dynamique, elle est complètement inadaptée, puis elle est dans la réalité abandonnée.
Alors lundi 21 mars, après l'appel de plusieurs scientifiques à modifier sa stratégie, mais aussi l'appel d'entrepreneurs et de personnalités du monde des affaires qui étaient étranglés par ces mesures draconiennes, Carrie Lam a annoncé qu'à compter du 1er avril, les vols en provenance de 9 États, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, seraient à nouveau autorisés. Mais comme vous l'avez souligné, Jean-Pierre Cabestan, il y a une recrudescence des cas et notamment des décès, plus de 6 000 depuis le début de cette cinquième vague. Avec une accélération donc ces dernières semaines, pourquoi est-ce que Carrie Lam choisit de rouvrir les frontières maintenant ? Ça paraît complètement paradoxal.
Alors, je crois que c'est la pression des milieux d'affaires et surtout le départ de Hong Kong d'un grand nombre d'expatriés. 70 000 départs nets au mois de février, plus de 100 000 depuis le début de l'année. Les gens en ont vraiment assez, hein. Donc ont perdu patience et sont partis, soit rentrés dans leur pays d'origine, soit déménagés ailleurs dans la région, en particulier à Singapour. Hein. Donc, et là, il y a un vrai danger pour l'économie de Hong Kong, pour la place financière de Hong Kong, et donc là, elle a commencé à prendre peur. Et c'est pour ça que ces mesures ont été introduites. Alors, elles vont être introduites de manière très, très progressive, mais on va passer, par exemple... à une quarantaine à l'arrivée à Hong Kong d'une semaine, au mois d'avril, donc contre 2 ou 3 semaines aujourd'hui. Donc c'est quand même des pas dans la bonne direction, mais c'est très très progressif et on se demande si ça sera suffisant pour éviter cette hémorragie.
Le risque pour Hong Kong, comme vous l'avez dit, grand pôle d'affaires du monde chinois, troisième centre financier de la planète, c'est le risque d'isolement.
Bah oui, parce que isolement à la fois de la Chine, parce que la Chine continentale n'a pas ouvert ses frontières, et donc c'est pas facile pour les Hongkongais de travailler avec leurs usines ou leurs partenaires en Chine continentale, et puis aussi isolement du reste du monde. Donc il faut faire des choix. Et je pense que là maintenant, Carrie Lam et le gouvernement d'Hong Kong se sont résolus à rouvrir progressivement sur l'extérieur pour essayer de protéger le caractère cosmopolite de Hong Kong, ce qui est peut encore être protégé.
Jean-Philippe Béja, on voit également de nombreux cadres d'entreprises internationales qui se sont installés dans la région, qui sont relocalisés dans des villes comme Dubaï ou à Singapour et à Shanghai. Cette fuite des cerveaux, est-ce qu'elle va durer et qu'est-ce qu'elle va coûter à Hong Kong ?
Écoutez, il faut bien voir que cette fuite des cerveaux, elle est due bien sûr à la pandémie de Covid-19 qui s'emballe, mais pas seulement. Il y a eu un certain nombre de changements qui ont été faits à Hong Kong depuis 2 ans, qui sont extrêmement inquiétants pour beaucoup d'expatriés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des expatriés qui partent. Il y a aussi beaucoup de professionals hongkongais qui ont très peur de la situation, qui s'inquiètent pour l'éducation de leurs enfants dans la situation de reprise en main aujourd'hui. Et donc, on arrive à des chiffres qui rappellent ceux des années 80-90. En 90, on avait environ, dans les années 90, on avait environ 60 000 départs par mois de Hong Kong. Et là, aujourd'hui, comme le disait Jean-Pierre Cabestan, on est à 70 000 depuis février. Donc, je crois que c'est effectivement, il y a un véritable problème de l'internationalisation de Hong Kong. Rappelons aussi que la Chine est fermée au tourisme depuis 2 ans. On ne peut pas avoir de visa de touriste. Rappelons que les autorités de Hong Kong ont aussi refusé des visas, alors que normalement, vous savez que les Européens n'ont pas besoin de visa. Ils ont refoulé un certain nombre de gens à la frontière parce qu'ils n'étaient pas corrects politiquement. Donc il y a évidemment une espèce de refermement de Hong Kong comme de la Chine, sous la pression d'ailleurs de la Chine. On ne peut plus parler pratiquement d'autonomie du gouvernement de Hong Kong. Et donc c'est quelque chose qui est effectivement très inquiétant pour l'identité même de Hong Kong. Hong Kong est une cité internationale, c'est une cité non seulement du point de vue du commerce, mais de tous les points de vue, des finances, mais de tous les points de vue. Et aujourd'hui, évidemment, cette situation de, vous savez, on appelait Asia World City, la cité mondiale de l'Asie, ben ce statut est effectivement très largement compromis. Alors ça profite beaucoup à Singapour, bien sûr.
C'est exactement ce que j'allais vous demander, puisque dans le même temps, on voit les listes d'attente pour l'inscription dans les écoles à Singapour, par exemple, qui s'allongent. L'une d'entre elles a reçu autant de candidatures depuis janvier que sur toute l'année dernière. C'est dire l'ampleur de l'exode des Hongkongais dans la région. Est-ce que ça va profiter durablement à ces États, à ces cités-États alentour ?
Ouais, écoutez, il semble en tout cas que la situation à Hong Kong soit partie pour durer. Tant que Xi Jinping est au pouvoir, on imagine mal un recul sur, par exemple, la question de l'éducation. C'est intéressant ce que vous notez. Vous savez, les gens ont de plus en plus peur pour l'éducation de leurs enfants, étant donné que l'emprise du Parti communiste sur les programmes, et à travers le gouvernement de Hong Kong, est de plus en plus forte. On a supprimé l'éducation libérale qui visait à développer l'esprit critique des enfants. Donc beaucoup de gens s'inquiètent et préfèrent partir. Tant que Xi Jinping est au pouvoir, je pense que... Alors on ne peut pas dire que Singapour soit un paradis du libéralisme et d'ouverture, mais aujourd'hui, elle apparaît par rapport à Hong Kong, c'est quand même paradoxal, elle apparaît comme un îlot de liberté. Oui, ça profitera sans aucun doute Singapour et Séoul, qui est l'autre endroit vers lequel un certain nombre de multinationales notamment, ou d'ONG, se délocalisent.
Alors cette année, on fêtera également les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong. C'est effectivement en juillet 1997 que les Britanniques ont cédé leur ancienne colonie à la Chine en négociant un statut spécial, celui d'un pays, deux systèmes qui devait durer 50 ans. 50 ans où la Chine s'engageait à respecter les libertés de Hong Kong et son autonomie. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique, Jean-Pierre Cabestan, selon vous, que Pékin ait eu besoin de renforcer sa mainmise 25 ans avant l'échéance ?
Je crois que, pour faire un peu d'histoire, il y a eu 2 mouvements de protestation qui ont fait peur au Parti communiste. D'abord, le mouvement des parapluies en 2014, et puis le mouvement de protestation contre une loi d'extradition vers la Chine continentale en 2019, qui a rassemblé beaucoup de Hongkongais, mobilisé beaucoup de Hongkongais, pas seulement contre cette loi, mais aussi pour demander à Pékin de mettre en place les réformes démocratiques qu'il avait promises, hein. C'est-à-dire que le système politique de Hong Kong était un système hybride, avec, pour faire simple, un parlement élu pour moitié seulement de manière démocratique, et puis un chef de l'exécutif élu par un comité électoral nommé par Pékin. L'introduction d'un suffrage universel avec un choix des candidats. Mais Pékin n'a pas voulu aller dans cette direction. Et au contraire, le mouvement de protestation a durci la position de Pékin, qui a décidé, alors, non seulement d'introduire cette loi de sécurité nationale, hein, qui est en juin 2020, mais aussi de complètement modifier le système électoral afin de réduire à 20 sur 90 le nombre de députés élus au suffrage universel, dans un contexte politique qui est beaucoup plus liberticide, dans le sens où Pékin a voulu au préalable marginaliser le camp pan-démocrate, pas seulement les politiciens favorables à l'indépendance de Hong Kong, qui sont très peu nombreux en fait ici, mais tout le camp pan-démocrate qui est maintenant soit en prison, soit en exil, pour des tas de poursuivis pour des chefs d'inculpation qui sont totalement frauduleux, donc notamment participation à des manifestations interdites, enfin, donc on est dans un contexte extrêmement autoritaire où seulement ce que Pékin appelle les patriotes ont le droit de participer aux jeux politiques.
Cette loi d'extradition dont vous avez parlé il y a quelques instants, est-ce que vous pourriez rappeler de quoi il s'agit ?
Alors, c'est une loi qui met la sécurité nationale au devant et qui interdit qui criminalise un certain nombre d'activités, notamment les gens qui se montrent, qui ont des opinions favorables à l'indépendance, à la sécession ou à la sédition, et qui aussi criminalise toute critique du Parti communiste ou toute critique du système de parti unique, donc la dictature du Parti communiste en Chine, et qui voudrait faire évoluer Hong Kong, puis à terme la Chine, vers une démocratie libérale pluraliste. Et donc ça, c'est criminel. Donc ça, vous imaginez ce que ça fait aux libertés publiques et à la vie politique.
Alors puisque la mainmise s'est renversée 25 ans plus tôt, dans 25 ans, donc quand on sera arrivé à ce terme, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, Jean-Philippe Béja?
Oui, je crois d'abord que peut-être un peu plus profondément, ce qui s'est passé, c'est que le Parti communiste chinois était convaincu qu'avec le temps, la nouvelle génération serait beaucoup plus favorable au parti, il serait effectivement patriote. Et ce dont ils se sont rendus compte à partir de 2014, surtout en 2019, c'est que pas du tout, l'identité hongkongaise se renforçait et que c'était devenu quelque chose comme une... C'est-à-dire que l'identité hongkongaise, c'est une identité politique, c'est une identité qui est fondée sur la défense des libertés fondamentales, les libertés d'association, de publication, de la presse, et ça c'est quelque chose qui était de plus en plus insupportable pour le Parti communiste chinois, et il y avait de plus en plus d'hostilité à l'égard du parti. Donc ils ont décidé de reprendre en main. Alors ça se situe dans un contexte général. Le contexte général, c'est que on ne supporte pas, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, on ne supporte pas du tout la moindre différence. Vous voyez, bien sûr, au Tibet, on connaît, on voit ce qui s'est passé au Xinjiang, où on veut faire des Ouïghours et des Khazars, des Han normaux, des citoyens, des Chinois normaux, et puis on l'avait vu en Mongolie. Donc, on veut voir qu'une tête. C'est un peu ça, la politique du Parti communiste chinois aujourd'hui. Donc, vous me dites, qu'est-ce qui va se passer dans 25 ans ? Bah, écoutez, regardons ce qui va se passer dans 25 ans à Pékin.
Jean-Pierre Cabestan, on ne doit pas forcément s'attendre à davantage d'emprise du pouvoir chinois ?
Vous voulez dire sur Hong Kong ? Moi, je pense que l'emprise est déjà très importante, hein, puisque le pouvoir n'est plus tellement dans les mains de Carrie Lam, mais du bureau de liaison de Pékin, qui est dirigé par quelqu'un qui appartient au comité central, qui s'appelle Lo Ruining, et qui est en fait le véritable secrétaire du parti de Hong Kong, comme on aime l'appeler ici. Donc, et il a toute une équipe au bureau de liaison qui supervise tous les départements du gouvernement. Alors, je précise ça au départ parce que, à mon avis, ça ne veut pas dire que en 2047, la formule un pays de système ne sera pas prolongée. Je veux dire par là que, en fait, Pékin a imposé une juridiction unique à Hong Kong, un système où finalement il n'y a plus du tout d'autonomie politique, on maintient l'enveloppe formelle, un pays de système, avec une monnaie différente, avec une frontière entre Hong Kong et le continent, mais sans véritablement autonomie politique. Et donc c'est un système qui peut être prolongé au-delà des 50 ans qui doivent arriver à terme en 2047. Donc moi, j'imagine bien le pouvoir en place, il reste de la même couleur, si vous voulez, avec la même orientation politique, prolonger cette formule, parce que ça sert à la fois les intérêts de Pékin, la stabilité, les milieux d'affaires, et ça sert aussi la Chine d'avoir une place ouverte. Les gens riches en Chine, notamment la nomenclatura, et puis les entrepreneurs, qui ont besoin d'avoir une place financière où la liberté de circulation des capitaux est entière. Alors qu'en Chine, vous ne pouvez pas jouir cette même liberté. Hein. Il y a un contrôle sur la monnaie. Le Hong Kong dollar est lié par un taux fixe au dollar américain. Enfin, il y a plein d'avantages financiers. Vous pouvez ouvrir en une heure une entreprise aux îles Caïmans ou aux British Virgin Islands, dans tous les paradis fiscaux possibles et imaginables. Donc vous imaginez la liberté financière dont vous jouissez ici. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt du parti de maintenir, et de toute la classe aisée en Chine qui a profité des réformes et qui dirige la société.
Et ces milieux d'affaires, justement, dont vous parlez, est-ce que ces expatriés qui font partie de ces milieux d'affaires pourraient jouer un rôle ou exercer une pression ou pourraient changer la donne politiquement ?
Non, ils ne peuvent pas changer la donne, mais ils peuvent, et c'est pour ça que vous avez un ensemble d'entreprises qui restent ici, parce qu'il y a un potentiel d'affaires à l'avenir qui sera de plus en plus tourné vers la Chine. Donc Hong Kong perd un peu de son côté cosmopolite, va continuer de perdre son côté cosmopolite, c'est-à-dire que toutes les entreprises étrangères qui sont ici, américaines, européennes ou japonaises, elles sont, enfin y compris les institutions financières, elles sont ici surtout parce qu'elles apportent des financements à l'économie chinoise. Et donc la place boursière de Hong Kong est dominée par les appels de fonds des entreprises chinoises. Donc, et ça, il y a assez de potentiel, si vous voulez, dans l'économie chinoise pour que la place financière de Hong Kong reste une pièce financière importante. Mais elle sera de plus en plus chinoise.
Alors j'aimerais qu'on revienne aussi sur la loi sur la sécurité nationale qui a été donc votée en juin 2020 avec une réorganisation notamment du système électoral dont vous avez parlé, qui a écarté les démocrates, les manifestations qui ont suivi et puis plusieurs associations et ONG qui ont choisi de quitter le pays ou de se dissoudre, à l'instar d'Amnesty International qui jugeait en octobre 2021 trop dangereux pour ses militants de rester sur le territoire. Même chose pour la Confédération des syndicats de Hong Kong, par exemple, qui s'est autodissoute. Jean-Philippe Béja, est-ce qu'il reste encore des ONG à Hong Kong ?
Oui, bien sûr, il reste encore des ONG. Il y en a 50 qui se sont autodissoutes. Alors dissoute, ça veut dire qu'elles étaient tellement menacées, elles avaient été dénoncées officiellement par la presse pro-chinoise, ce qui était déjà un moyen pratiquement de les empêcher d'exister. Elles ne se sont pas dissoutes de gaieté de cœur. Alors les plus importantes, évidemment, c'est l'alliance du soutien au mouvement patriotique pour la démocratie en Chine, qui est l'organisateur de la veillée du 4 juin pour qui commémore le massacre de Tiananmen, et qui est une date essentielle dans la Hong Kong contemporaine, à laquelle participaient des centaines de milliers de personnes. Ça n'existe plus. La loi de sécurité nationale, elle a été votée par l'Assemblée populaire nationale de Pékin, parce que Pékin ne se fiait plus même à ses partisans à Hong Kong. C'est évident. Ils ont décidé de reprendre les choses en main. Il y a une police spéciale qui s'occupe de la sécurité nationale et qui est dévouée à Pékin. Donc, si vous voulez, on est véritablement dans une situation d'une société libérale à une société qui a été complètement reprise en main, comme si ça se passait du jour au lendemain, demain. Vous savez, Albert Ho, qui était l'ancien président du Parti démocrate, c'est l'équivalent de François Bayrou. Et bien, Albert Ho, il est en prison depuis plus d'un an pour sédition et pour collusion avec l'étranger.
Monsieur Béja, on va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Je vous ferai sûrement répéter certaines choses. On continue donc notre discussion dans la deuxième partie de l'émission. Jean-Philippe Béja, Jean-Pierre Cabestan, on vous retrouve juste après le journal sur RFI. À tout de suite.
Géopolitique. Amélie Beaucourt.
Et nous retrouvons nos deux invités, Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries de Sciences Po, et Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, également en mission à Hong Kong. J'aimerais revenir sur la loi de la sécurité nationale dont on a parlé à la fin de la première partie de l'émission. Avec vous, Jean-Pierre Cabestan. Joshua Wong, militant étudiant qui avait participé à l'une des manifestations pacifiques en 2019, a écopé en fin d'année dernière d'une peine de 13 mois de prison. Or, c'était une manifestation, on l'a dit, pacifique. Ça veut dire qu'actuellement, toutes les manifestations pacifiques sont interdites à Hong Kong ?
Alors, elles ne sont pas formellement interdites, mais aucune n'a pu être organisée, à la fois parce que le gouvernement n'a pas donné l'autorisation, mais la Covid, la pandémie, a été une excuse, un prétexte pour empêcher toute manifestation en fonction des règles de distanciation sociale. Mais ce que j'observe, c'est que les sanctions qui ont été prises contre les organisations de manifestations interdites, notamment à l'occasion de la commémoration du 4 juin en 2000, juste avant l'introduction de la loi de sécurité nationale, ces sanctions pénales sont extrêmement lourdes. Dans quel pays on met les gens en prison pour participer ou organiser une manifestation interdite ? Au plus, on a une amende. Tandis que là, les responsables, dont Albert Rowe et d'autres, et Joshua Wong, sont en prison depuis plus d'un an. Les accusations et les chefs d'inculpation s'étant accumulés, il y en a qui vont rester 2, 3 ou 4 ans en prison. Donc là, on est dans un contexte autoritaire. Là, c'est fini maintenant. Les libertés publiques qui avaient été laissées par les Britanniques, le pluralisme politique qu'on connaissait, tout ça, c'est terminé.
Est-ce qu'on peut y voir, donc à travers toujours cette loi de la sécurité nationale et sur les différentes arrestations qui ont eu lieu, une volonté d'intimidation de la société civile hongkongaise, une volonté de Pékin de faire des exemples pour éviter que ce genre de comportement ne se reproduise?
Comme l'a dit Jean-Philippe Béja, ils ont fait des exemples avec un certain nombre de syndicats, notamment le principal syndicat des enseignants, qui a été démantelé. Non, et puis les ONG sont sous pression, les gens sont... Et alors, le problème, c'est que les intimidations partent en général des journaux pro-Pékin, dont ce qu'on connaît, le Takong Pao et le Renan Pao, qui sont ceux qui commencent à lancer des menaces, et après, le gouvernement ou la police prennent le relais et arrêtent les gens. Donc, on est dans un contexte qu'on n'avait jamais vu à Hong Kong. Là. C'est une vraie... Sur le plan politique, c'est dramatique. Hein.
Au niveau du paysage médiatique, justement, vous en parliez, Jean-Philippe Béja, le patron de presse Jimmy Lai, démocrate affiché, a été arrêté sur des accusations de fraude avec refus de remise en liberté sous caution. C'était le propriétaire d'un grand quotidien indépendant qui s'appelle l'Apple Daily. Fermeture également du site d'information Li Shang fin décembre, avec l'arrestation également de plusieurs des journalistes, et du site Citizen News qui déclare cesser son activité en janvier. Est-ce qu'il reste aujourd'hui, Jean-Philippe Béja, à l'heure où on se parle, des médias d'opposition, des médias indépendants, et est-ce qu'ils vont devoir, pour rester en place, réorienter leur ligne éditoriale pour passer à travers les mailles du filet ?
Bah écoutez, on n'a plus du tout de journaux qui sont dans l'opposition. On n'a plus de journaux qui soutiennent ouvertement le Parti démocrate. Mais vous savez, il faut bien voir, la loi de sécurité nationale fait que la critique du gouvernement devient maintenant illégale. Donc c'est simplement quelque chose qui est absolument impossible. Vous savez, l'habitude de Hong Kong, qui était the rule of law, l'état de droit, qui est quelque chose de très important, a été renversé, a été utilisé par le pouvoir chinois, bien sûr, à travers ces séides de Hong Kong, pour limiter les libertés. Ben, vous comprenez, si vous enfreignez la loi sur la sécurité nationale, il est bien naturel que vous soyez condamné. Donc, dans ces conditions, c'est extrêmement difficile d'avoir des journaux critiques. Alors, il reste encore des voix critiques sur le net. Il reste, certes, d'abord, parce que vous savez, on n'a pas encore the Great Firewall qui interdit complètement de franchir le mur. Donc, si vous avez un site de Hongkongais qui est installé à l'étranger, ben, on peut quand même y accéder à Hong Kong. D'autre part, les gens de Hong Kong sont souvent des geeks et ils sont tout à fait capables d'accéder à toutes sortes de nouvelles. On n'est pas dans la situation de Pékin, mais il n'y a plus de presse d'opposition. Alors vous avez un certain nombre de rubriques, vous savez, de libres opinions dans un journal qui s'appelle le Ningbo, mais elles sont, il faut bien le dire, de plus en plus policées et de plus en plus respectueuses. J'ai un ami qui est le plantu de Hong Kong, si vous voulez, et je lui demandais comment ça va, est-ce que tu continues à faire des caricatures? Il disait oui, mais elles sont beaucoup moins pimentées qu'autrefois. Donc, si vous voulez, voilà à peu près quelle est la situation. La liberté de la presse a disparu. D'autre part, rappelons qu'un certain nombre de journalistes étrangers se sont vus raccompagner à la frontière ou interdire d'entrer. On est vraiment dans une situation très difficile. Mais ça ne veut pas dire que la population de Hong Kong n'est pas capable de s'informer et n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle l'est au contraire tout à fait. Je veux dire, il y a une volonté de la part du pouvoir et puis il y a une réalité de la société, une société qui est quand même ouverte sur l'extérieur et qui a les moyens de passer les limites imposées par le pouvoir.
Jean-Pierre Cabestan, quel autre levier utilise Pékin pour asseoir son autorité? Je crois qu'il s'immisce également dans les écoles et les programmes d'éducation.
Ah oui, bah là, oui, bah force. C'est en principe le département d'éducation qui s'en occupe, mais comme je l'indiquais plus précédemment, ce département est supervisé par les responsables du bureau de liaison qui veillent à ce que l'éducation patriotique soit bien introduite et respectée. Maintenant, il y a le lever des couleurs aussi dans les écoles. Il y a aussi faut apprendre l'hymne national par cœur. Enfin, ce sont des choses qui n'existaient pas autrefois à Hong Kong. Et alors, évidemment, avec le contexte de la pandémie, les écoles sont fermées, les élèves prennent leurs cours depuis chez eux avec Zoom ou Internet. Donc, ça ralentit un peu tout ça. Mais je pense que la volonté de Pékin, c'est de transformer l'identité des Hongkongais. Les Hongkongais sont restés. Les derniers sondages d'opinion l'ont montré encore en 2019, beaucoup plus hongkongais que chinois. L'identité exclusivement hongkongaise avait beaucoup augmenté et le pouvoir essaie d'inverser cette tendance. Est-ce qu'il y parviendra? Le problème, c'est que les gens sont devenus extrêmement introvertis, hein. Ils ne s'expriment plus à Hong Kong. Il y a beaucoup d'autocensure, mais dans les cercles privés, ils disent ce qu'ils pensent et soit ils partent, comme l'indiquait Jean-Philippe, c'est-à-dire les parents qui ne veulent pas que leurs enfants subissent un véritable lavage de cerveau dans les écoles hongkongaises, décider d'émigrer en Angleterre ou en Australie ou ailleurs, mais les gens sont très prudents dans la sphère publique, donc parce que le parti communiste est beaucoup plus présent qu'il était autrefois. Même si officiellement, il n'y a pas de parti communiste à Hong Kong.
En parlant de l'identité hongkongaise, historiquement, c'est quand même une ville qui sait exprimer sa révolte. On se souvient donc des manifestations de 2019 ou du mouvement des parapluies en 2014. Aujourd'hui, Jean-Philippe Béja, est-ce que cet esprit de révolte, à votre avis, va réussir à survivre? Ou est-ce que la révolte doit s'organiser de l'extérieur via sa diaspora?
Rappelons aussi que les élections au conseil de district de novembre 2019 ont envoyé 17 sur 18 des conseils, ont envoyé à ces conseils une majorité démocrate et localiste. Donc c'est véritablement la participation de la population à ce mouvement et à tous les mouvements est véritablement massive. Depuis qu'il y a des élections à Hong Kong, on a environ 60% des voix pour les démocrates et, alors depuis récemment, les localistes. Donc, si vous voulez, on ne change pas du jour au lendemain la façon de penser de l'ensemble d'une population qui a vu... C'est une identité qui s'est créée en deux générations. Hein, les gens qui sont nés au lendemain de la guerre et puis les deux autres générations qui sont arrivées. Donc, ça fait trois générations. Et c'est une identité qui est très profonde, très, très, très très forte. Je veux dire, c'est une identité politique, une identité civique, c'est pas une identité ethnique. Bien sûr, vous avez 98% de la population qui est cantonaise à Hong Kong, mais l'idée, c'est que être hongkongais, c'est être attaché à toutes ces libertés fondamentales. Alors, est-ce que ça va disparaître? Non, ça va pas disparaître. Je veux dire, vous avez en plus 10 000 personnes qui ont été arrêtées au cours du mouvement de 2019 et qui vont être probablement jugées. Ce sont beaucoup, il y a environ 40% de jeunes qui ont moins de 18 ans, ou moins de 22 ans. Ça veut dire que des familles entières vont être concernées par cette affaire. Alors les gens en ce moment ne bougent pas, hein, évidemment, parce que c'est extrêmement risqué, mais aussi parce que la pandémie de Covid-19 est extrêmement pratique pour interdire les rassemblements, parce que avant qu'il y ait la pandémie, hein, rappelons quand même que le 1er janvier 2020, il y avait 1 million de personnes dans la rue pour demander la démocratie, et que avant le Covid, les gens allaient chanter l'hymne Glory to Hong Kong dans les supermarchés. Donc il y a fort à parier que les Hongkongais n'ont pas dit leur dernier mot. Alors comment est-ce qu'ils vont s'exprimer? Alors ils ont déjà exprimé avec leurs pieds, comme on dit, la participation aux élections aux élections fausses du LegCo à la fin de l'année dernière au Conseil législatif, ça a été 30% de participation, alors qu'on avait eu 71% de participation aux élections au Conseil du district, qui sont beaucoup moins importants. Donc on voit bien que si la population ne descend pas dans la rue, elle n'en pense pas moins. Je ne pense pas qu'on peut véritablement transformer la façon de penser des gens en un an. Bien sûr, on peut les empêcher de s'exprimer en exerçant une terreur, en arrêtant toutes les personnes qui osent dire quelque chose. Mais dans un certain... on peut voir qu'à terme, ça continuera à exister. Je crois que l'idée que le Parti communiste chinois va convaincre les Hongkongais d'être patriotes, comme ils disent, c'est-à-dire d'aimer le parti, c'est un combat qui est entièrement perdu.
Est-ce que ces pressions, elles s'exercent aussi sur le monde universitaire et le monde de la recherche dont vous faites partie tous les deux ?
Oui, bien sûr. De façon, Jean-Pierre qui enseigne à Hong Kong le dira sans doute mieux que moi, mais évidemment, on voit moins d'universitaires qui interviennent dans la presse, par exemple. Pour tout ce qui est de l'aide, on avait un certain nombre de gens qui parlaient très souvent sur à la fois l'évolution de la situation politique en Chine ou sur la politique quotidienne à Hong Kong et qui aujourd'hui ne parle pratiquement plus. Je pense que Jean-Pierre va vous en parler.
À la presse étrangère ? À la presse étrangère ?
C'est tout à fait exact. Et en fait, il y a beaucoup d'autocensure maintenant dans les universités. Moi, j'ai des tas de collègues qui refusent d'enseigner sur la Chine populaire, hein, parce que c'est trop dangereux. Ils refusent d'enseigner sur Tiananmen, sur tous les sujets qui pourraient fâcher. Moi, je continue parce que je suis expatrié et que je suis pas loin de la retraite, donc j'ai rien à perdre. Mais et mes étudiants sont assez contents d'entendre ce que je dis sur la Chine, mais je comprends très bien que les gens qui ont de la famille en Chine continentale ou même des Hongkongais soient très très réticents à continuer d'enseigner sur des sujets sensibles parce que c'est trop risqué. Alors le paradoxe, c'est que les universitaires n'ont reçu aucune instruction. Alors les universités ont dû introduire de l'enseignement patriotique qui fait partie du curriculum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être diplômé, on ne peut pas avoir une licence sans avoir suivi un cours d'éducation patriotique, mais ou sur la loi de sécurité nationale, mais enfin bon, c'est un cours qui est pas très très exigeant. Et donc les universités ont essayé d'arrondir un peu les angles, mais l'ambiance quand même, elle est devenue beaucoup plus pesante. Et donc ce qui pose un problème d'ailleurs pour le niveau des universités en sciences sociales. En sciences, il n'y a pas de problème, parce que c'est des sujets, c'est des thèses, c'est des disciplines que Pékin soutient ardemment. Mais en sciences sociales, à mon avis, l'avenir des sciences sociales en Hong Kong est quand même très très compromis.
Alors Jean-Philippe Béja, le 8 mai prochain auront lieu les élections pour désigner le chef de l'exécutif, un poste qui est détenu à présent par Carrie Lam depuis 2017. Est-ce qu'il y a une appréhension de la population en vue de ces prochaines élections et de leur organisation, au vu notamment de ce que vous nous aviez dit sur les élections de décembre dernier, qui n'avaient vu se présenter aux urnes que 30% des votants?
Écoutez, d'abord, vous avez utilisé le mot d'élection. Je pense que c'est véritablement abusif. Il s'agit de sélection, comme on dit, puisque le chef de l'exécutif est désigné par un comité de sélection, dont la plupart des membres sont désignés par Pékin. Pas seulement, il va être représentatif de l'ensemble de la société. Et on avait notamment, par exemple, les enseignants ou les gens des services sociaux, qui étaient souvent des membres des syndicats qui ont été dissous, qui n'existent plus. De plus, on a ajouté un certain nombre de représentants des entreprises du continent, des entreprises chinoises à Hong Kong, qui sont aussi partis de ce vote. Donc, évidemment, il n'est pas question, ce n'est pas du tout une élection. On va voir qui Pékin désigne. Le problème, je pense que Carrie Lam est très inquiète avec la pandémie qui s'envole, parce que Xi Jinping a dit clairement qu'il fallait que ce soit zéro Covid et que donc, quoi qu'il en soit, elle doit le faire. Donc je pense que sa position n'est peut-être pas absolument assurée, mais c'est une chose dont la population se moque complètement. Ça n'a aucune influence. Je veux dire, que ce soit Carrie Lam ou que ce soit Xi Weilang, qui est l'autre extrémiste du service de Pékin, ça ne changera absolument rien à la vie des gens. Juste sur l'histoire de l'université, je voulais dire un mot, il y a quand même des aspects très inquiétants, notamment récemment, le Dagongbao dont parlait Jean-Pierre Cabestan, qui est un peu la voix de Pékin à Hong Kong, a dénoncé nommément un certain nombre d'enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui, normalement, vous savez, quand on est dénoncé nommément dans le quotidien du peuple ou dans un journal en Chine, c'est le prélude à l'exclusion. Aujourd'hui, une grande partie de la politique de Hong Kong se fait dans le Dagongbao, parce que c'est lui qui annonce les choses et après la police prend la suite. Alors pour le chef de l'exécutif, je vous dis, c'est véritablement un non-problème. Alors ça devait être aujourd'hui, ça devait être au mois de mars, ce sera au mois de mai ou ce sera plus tard. De toute façon, ça ne changera absolument rien, puisque c'est quelqu'un qui sera entièrement aux ordres de Pékin et que le véritable pouvoir maintenant n'est plus du tout à Government House, mais il est, comme on dit, à Western.
J'ai une toute dernière question pour tous les deux. En début de semaine, dans le journal La Croix, un universitaire de la diaspora hongkongaise en exil depuis 2 ans faisait un parallèle entre l'invasion militaire russe en Ukraine et le poids de la Chine communiste sur la ville de Hong Kong, en rapprochant notamment leur révolte à la révolution de Maïdan de 2014, qui a précipité la chute du régime pro-russe de Viktor Yanukovych à l'époque, avec le mouvement des parapluies. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, dans une certaine mesure, alors évidemment, on peut dire que Hong Kong fait partie de la Chine officiellement, donc on peut pas, c'est pas la même chose, c'est pas un pays souverain dans lequel il serait intervenu, mais ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, la manière de faire de la Chine, de Xi Jinping, a été beaucoup plus fine que celle de Poutine. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on a une espèce d'intervention de papier. C'est-à-dire qu'on a complètement transformé le système de Hong Kong. Alors évidemment, la Chine populaire en avait les moyens, puisqu'il n'y a pas d'indépendance de Hong Kong, et elle l'a fait sans effusion de sang, elle l'a fait simplement en retournant la loi contre l'état de droit contre ce qu'il était, c'est-à-dire qu'on avait un état de droit qui protégeait les citoyens contre les abus de l'État, et bien maintenant, on a des lois qui protègent l'État contre les citoyens. Donc dans une certaine mesure, le parallèle n'est pas absurde, mais évidemment, ça s'est passé d'une façon complètement différente. Et rappelons-le, Hong Kong n'est pas un pays indépendant, contrairement à l'Ukraine.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Béja, et merci à vous, Jean-Pierre Cabestan. Géopolitique, c'est fini pour cette semaine. Merci aussi à Cécile Lavolo et Nicolas Benita d'avoir préparé et réalisé cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie-France Chatin à ce micro. D'ici là, bon week-end et à bientôt.